RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Ce dimanche 5 mai, en Orient comme en France, les chrétiens se réuniront pour prier à l'occasion de la journée des chrétiens d'Orient. Dans les paroisses et les communautés, ce sera l'occasion de manifester solidarité et communion avec ces hommes et ces femmes qui, de l'Irak à la Syrie, ou du Liban à la Palestine, ont toujours plus de difficultés à vivre leur foi. On va en parler avec nos invités. Notez que dans la seconde partie, on fera le focus sur le Festival des chrétiens d'Orient, organisé à l'abbaye d'Andecy dans la Marne, les 6 et 7 juillet prochains. Que va-t-il se passer lors de ce festival? Et quel est le programme? Rendez-vous à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dans quelle mesure vous sentez-vous proche et concerné par la situation des chrétiens d'Orient? Pourquoi, d'après vous, il faut continuer à se mobiliser pour eux? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et avec ce matin, Véronique Alzur, rédactrice en chef Foi et Spiritualité. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Les chrétiens d'Orient sont souvent présentés comme une mosaïque d'églises à cause de leur nombre, de leur diversité, de leur histoire et de leur tradition. L'image d'une mosaïque est plutôt appropriée. C'est joli une mosaïque, mais c'est fragile. Des motifs peuvent s'effacer, voire disparaître, si on n'en prend pas soin, ça se casse aussi. Il en est de même pour ces églises, que ce soit à cause d'une guerre, d'un contexte économique difficile ou même de persécution. Être chrétien dans ces pays ne va pas de soi. Coptes, maronites, chaldéens, syriaques ou orthodoxes orientaux, il serait entre 10 et 15 millions à vivre dans la région des origines du christianisme. Que ce soit en Ukraine, au Liban, en Palestine, en Turquie, en Égypte, en Irak, en Syrie ou en Jordanie, et j'en passe, les populations, chrétiennes ou pas d'ailleurs, les populations donc de ces pays font face à des situations complexes. Et c'est pour les aider que l'association Chrétien d'Orient est présente sur place et soutient toutes sortes de projets par l'intermédiaire des 11 églises d'Orient. À l'occasion de la journée de communion avec les chrétiens d'Orient qui aura lieu dimanche prochain, dans cette émission, nous allons évoquer les différentes formes d'aide et quelques-unes des réalités auxquelles sont confrontées ces communautés. L'objectif est de ne pas les oublier, de leur faire savoir et de contribuer à préserver les couleurs et les motifs de la mosaïque qui n'aurait plus tout à fait le même éclat si l'une ou l'autre de ces églises venait à manquer.
Et pour en discuter dans cette première partie, Véronique, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir deux invités ce matin.
Monseigneur Pascal Gollnisch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'œuvre d'Orient et vous êtes également vicaire général de l'Ordinariat des catholiques orientaux en France. Vous nous expliquerez dans quelques secondes en quoi ça consiste. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Vincent Gelot. Bonjour Vincent.
Bonjour.
En direct de Beyrouth, c'est ça?
Tout à fait.
Vous êtes à Beyrouth aujourd'hui. Vous êtes responsable de projet pour l'œuvre d'Orient au Liban et en Syrie. Et quand vous n'êtes pas dans un de ces deux pays, vous êtes en général dans l'autre. Monseigneur Pascal Gollnisch, expliquez-nous en quoi consiste votre responsabilité de vicaire général de l'Ordinariat des catholiques orientaux en France.
Eh bien, il y a des catholiques orientaux en France, dans l'Église de France. L'Église de France, on est habitué à ce que ce soit l'Église latine, et on trouve ça normal, et on finit par penser que ça ne peut être que l'Église latine. Moi, je suis un prêtre latin, et je me trouve très bien d'être latin, enfin, j'en suis heureux, plus exactement. Mais il y a des catholiques non latins dans notre Église de France, et il y en a plusieurs communautés. Il y en a trois qui ont un évêque, les Ukrainiens, les Arméniens et les Maronites. Ce sont des diocèses, en Orient on appelle ça une éparchie, ils ont leur cathédrale à Paris, voilà. Et puis il y en a d'autres qui, pour diverses raisons, n'ont pas d'évêque. Alors on les a rassemblés dans une sorte de quelque chose qui ressemble à un diocèse personnel, dont l'évêque est Monseigneur Ulrich. Mais c'est pas un service parisien, c'est une responsabilité nationale qui est appelée de la part du Saint-Siège une nomination spécial en dehors du fait d'être archevêque de Paris. Et comme tout évêque, il a un vicaire général et c'est tombé sur moi. Voilà. Donc il s'agit d'accompagner les communautés catholiques orientales. Il y en a en Corse et Mgr Ulrich s'est rendu récemment en Corse. On est allé avec l'évêque d'Ajaccio, qui, comme vous le savez, est cardinal, en visite pastorale de la communauté grecque hellène de Cargèse. Et puis ça remonte jusqu'à Lille et puis de Nantes à Strasbourg en passant par Paris. Donc voilà. Vous voyez, c'est une dynamique qui enrichit notre Église de France et j'invite les catholiques latins de France, s'il y a une église orientale à proximité, d'aller leur dire bonjour et de regarder un peu comment se vit leur liturgie, comment se vit leur communauté. C'est un enrichissement pour notre Église.
Alors je précise pour ceux qui seraient déjà un tout petit peu perdus que sur le site de l'œuvre d'Orient, il existe une frise chronologique très bien faite qui explique, alors pas en France, mais disons l'apparition des diverses églises d'Orient dans lesquelles on se sent parfois un petit peu perdu. C'est très pédagogique, c'est très bien fait. Alors maintenant on part à Beyrouth pour vous entendre Vincent Gelot. Pour que vous nous expliquiez en quoi consiste, vous, votre responsabilité de responsable de projet pour l'œuvre d'Orient.
Bonjour à tous. Ma mission première est celle de tout le bureau Liban, puis aussi des volontaires de l'œuvre d'Orient qui sont au Liban, mais aussi dans d'autres pays de la région. C'est d'abord de maintenir le lien d'amitié, je dirais physiquement, aux côtés des chrétiens d'Orient. L'œuvre d'Orient, c'est une association qui a été fondée en 1856 et donc on essaye de prolonger ce lien d'amitié physiquement ici et surtout dans des périodes aussi difficiles et compliquées que ce que vivent ces pays. Ensuite, sur place, notre but, c'est de voir les besoins de ces communautés qui sont, comme vous le savez, plongées dans des pays en crise, en guerre, en difficulté et donc d'évaluer ces besoins, de les faire remonter auprès du siège de l'œuvre d'Orient à Paris et puis ensuite d'accompagner sur place la réalisation de ces projets. Voilà. Donc on est un petit peu les antennes de l'œuvre d'Orient ici sur place.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette région du monde, Vincent ?
Une dizaine d'années, 8 ans au Liban.
Monseigneur Gollnisch, comment est née l'idée d'une journée de prière, une journée de communion pour les chrétiens d'Orient ?
Je vais vous répondre, mais je voudrais revenir sur votre remarque partagée en disant il y a beaucoup de chrétiens d'Orient, c'est un peu compliqué. Nous allons bientôt lire le récit de la Pentecôte. Hein, et dans les Actes des Apôtres, on nous dit qui était là, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Partes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, du Pont, etc., etc. Faites la liste, c'est au deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Il y a quelques romains de passage, nous dit Saint-Luc, mais voilà, ce sont les premiers chrétiens. Mm. C'est nous qui sommes étranges, parce que le christianisme, c'est une religion asiatique, une religion orientale. C'est nous qui sommes bizarres, nous occidentaux, nous latins, d'être, on va dire, adeptes, en fait disciples du Christ, mais adeptes d'une religion orientale. Voilà, c'est nous qui sommes compliqués. Vous me demandiez la question de l'opportunité d'un temps de prière. Outre la force propre de la prière, on fait une demande à Dieu et on peut être exaucé dans la foi. Bien. Mais il y a des aspects aussi concrets de la prière. D'abord, la prière, elle a une capacité extraordinaire de nous rendre proches de celui qui est loin. Le petit chinois qui dimanche dernier était à la messe et a lu exactement les mêmes textes que nous à la messe du dimanche, il est d'une proximité incroyable. Il y a 1,2 milliard de catholiques latins qui ont lu les mêmes textes dimanche dernier. Je ne sais pas si on mesure bien la proximité que ça tisse à travers la planète de cette communion spirituelle d'1,2 milliard qui prie avec les mêmes mots. Sans compter nos frères orthodoxes et protestants. Donc vous voyez, c'est une proximité incroyable. Et deuxièmement, la prière permet de relativiser les pouvoirs de ce monde.
C'est-à-dire ?
Il y a des pouvoirs qui se prennent pour Dieu, de manière très brutale. Il n'y a qu'à les voir en Corée du Nord, il faut s'incliner devant les statues des dirigeants quasi divinisés, mais de manière parfois plus subtile, en pensant que le pouvoir politique est plus important que le pouvoir de Dieu. La prière permet justement de relativiser tout ce qui est humain, bien humain, et parfois trop humain. car il y a un défi essentiel pour les religions de ne pas se laisser récupérer et manipuler par les pouvoirs politiques, où que ce soit, et quelle que soit la religion. Et c'est un défi, les religions, pour jouer leur rôle, elles doivent être libres. Et cette liberté, elle s'enracine dans la prière, car personne ne peut prier à notre place, personne ne peut nous obliger à prier ou à ne pas prier. La prière, c'est un acte de liberté, et c'est un acte qui libère. Et par exemple, c'est important on rentre dans cette dimension de la prière. Alors après cela, la Méditerranée, pour parler du Moyen-Orient, et on pourrait aussi parler de l'Europe de l'Est, mais pour parler du Moyen-Orient, c'est notre village, et c'est un lieu de tension croissante. Des gens se noient pour essayer de la traverser sur des embarcations de fortune. Il y a des tensions, il y a des guerres multiples, et par conséquent, il est essentiel que les chrétiens fassent traverser la Méditerranée par des chemins de prière. La prière, c'est quand même le premier chemin de la paix. Quand on dit la paix, c'est une journée de prière pour la paix.
Est-ce que dans cette journée, il y a aussi le souhait, la volonté de mieux faire connaître aux latins que nous sommes ces églises dont je disais qu'elles nous sont... On les considère parfois comme très nombreuses et un peu... disons que ce que je voulais dire, c'est qu'on a du mal à s'y retrouver parfois parce que c'est quand même, il faut le reconnaître, un tout petit peu compliqué en termes d'histoire, en termes de sensibilité. Mais c'est aussi l'occasion pour nous justement de les découvrir, ces églises.
Bien sûr, c'est compliqué pour nous. Mais pour un oriental, si vous devez lui expliquer ce que c'est qu'un franciscain, un capucin, un franciscain conventuel, il nous trouve
il
très compliqué.
Il sera perdu aussi.
Nous sommes compliqués quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas. Mais je suis d'accord avec vous, il y a une diversité d'églises à laquelle nous ne sommes pas accoutumés.
De les découvrir.
Nous essayons toute l'année de faire découvrir les chrétiens d'Orient. C'est une mission de l'œuvre d'Orient. C'est pas simplement un soutien économique, on n'est pas une banque. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous pouvons apporter un soutien économique à la mission des chrétiens d'Orient, parce que les chrétiens d'Orient sont en mission. Vous voyez, j'étais il y a quelques jours avec la présidence des évêques de France et l'archevêque de Paris en Égypte. Ils ont été très impressionnés parce qu'ils pensaient trouver une communauté un peu recroquevillée sur elle-même, à partager entre soi les souffrances du temps, et ils ont rencontré une église en mission. Et c'est cette mission des chrétiens qui n'est pas par l'évangélisation explicite, pour les raisons que vous savez, mais qui est par le témoignage de la charité. C'est cette église en mission que nous voulons soutenir parce que je pense aussi qu'indépendamment de notre devoir de solidarité, c'est aussi l'intérêt bien compris de tous les peuples de la Méditerranée.
Vincent Gelot, cette journée du 5 mai, elle est connue, elle sera partagée, notamment dans les pays que vous connaissez et que vous avez l'habitude de fréquenter, les communautés que vous fréquentez.
Oui, tout à fait. En fait, la journée des chrétiens d'Orient est née il y a quelques années de cela, et c'est véritablement un pont que l'on essaye de nouer, non seulement évidemment de l'Orient vers l'Occident, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire que on demande aux communautés chrétiennes d'Orient de prier pour elles-mêmes, mais aussi de prier pour nous, de prier pour le peuple français, le peuple d'Europe. Donc c'est il y a une réciprocité, et c'est très important qu'il y ait cette dimension qui soit pas à sens unique, et que nous, ce qu'on essaie de faire vivre, c'est d'abord une dimension d'amitié, une dimension de prière, et donc on souhaite qu'elle puisse vivre. Alors concrètement, ça va vouloir dire que dans les églises, des différents rites, par exemple au Liban, à Beyrouth, des intentions de prière seront données dans les deux sens. Voilà. Et on a essayé de faire passer le message également au niveau des établissements scolaires, qui sont très nombreux, notamment au Liban, mais aussi en Syrie. Et voilà, et de prendre aussi des témoignages, parce que je crois que cette journée, c'est aussi l'occasion de demander aux chrétiens d'Orient, aux religieux, aux religieuses, mais aussi aux gens, aux familles, ce que cela représente pour eux. Et puis aussi pour eux, d'une certaine façon, de témoigner de leur présence, de leurs difficultés, mais aussi de leur espérance.
Oui, une journée qui sera l'occasion de manifester solidarité et communion avec ces hommes et ces femmes qui ont toujours plus de difficultés à vivre leur foi. On parle des chrétiens d'Orient, vous l'entendez ce matin dans Je pense. Donc Jaji, vous avez la parole pour en discuter avec nous au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense. Donc Jaji.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on va tout de suite accueillir Catherine, justement, par téléphone. Bonjour Catherine.
Bonjour. Cette journée de prière et de solidarité est très, très précieuse, très belle. Bon, on entend bien parler à Radio Notre-Dame depuis quelque temps.
Oui.
Mais ce qu'on n'entend jamais dire, c'est que ce 5 mai, c'est la date de Pâques pour beaucoup de chrétiens d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. La date de Pâques fluctue tous les ans. Elle est quelquefois proche, quelquefois très éloignée de la date de Pâques latine. Cette année, c'est le cas. Pâques, pour nous, pour les
orthodoxes,
pour les byzantins, et catholiques et orthodoxes, c'est le 5 mai. Et sur Radio Notre-Dame, que j'écoute assidûment depuis quelque temps, il n'a jamais été fait mention que le 5 mai, c'est la date de Pâques. Nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte, et dimanche prochain, enfin samedi, samedi-dimanche, c'est la date de Pâques.
Eh bien, parfait. Catherine, vous faites bien de nous le rappeler ce matin, et on salue tous les auditeurs de Radio Notre-Dame en Ile-de-France qui sont connectés avec nous dans cette émission, je pense, donc j'agis sur RCF. Monseigneur Pascal Gonich a la raison de rappeler ça, Catherine.
Bien sûr, naturellement. Il se trouve que les circonstances ont fait que j'ai rencontré ces derniers jours deux patriarches orthodoxes, et pas des moines, puisqu'il s'agissait du patriarche de Constantinople et du patriarche d'Alexandrie. Et à chacun d'eux, j'ai parlé de cette journée de prière ensemble qui donc tombe pour eux le jour de Pâques, j'en suis très conscient bien sûr, et tous les deux ont dit combien ils étaient heureux de cette coïncidence de calendrier, car la prière elle s'enracine toujours dans la fête de la résurrection, et donc c'est un heureux concours de circonstances qui ne se produit pas tous les ans, puisque, voilà, comme vous l'avez dit, la date de Pâques est fluctuante tant pour les latins que pour les orthodoxes.
Vincent Gelot, quand on parle de chrétiens d'Orient, d'abord, on parle de quel Orient ?
Alors, quand on parle des chrétiens d'Orient, on parle généralement des communautés chrétiennes autochtones, natives, qui sont encore présentes sur leur territoire d'origine. L'Orient, c'est un Orient très vaste. En parlant d'Orient, on peut aller jusqu'en Asie du Sud-Est. Or, là-bas, il n'y a pas de chrétiens d'Orient aujourd'hui. Donc, on parle de ces communautés qui, aujourd'hui, sont dans les pays où l'œuvre d'Orient est présente, c'est-à-dire 23 pays, et que nous accompagnons. Voilà, ce sont les héritiers, les descendants des premières églises, des premiers apôtres, des premiers disciples dont parlait Mgr Gollnisch tout à l'heure, et qui sont partis au moment de la Pentecôte.
Ça, c'est très important ce que disait Mgr Gollnisch. C'est là que l'Église est née. C'est là que le christianisme a ses racines. Ces chrétiens, est-ce qu'ils en sont vraiment conscients ? Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans leur gène, dans une certaine mesure, Mgr Gollnisch ?
Vous savez, l'Empire romain, excusez-moi, il faut faire un peu d'histoire quand on approche les chrétiens d'Orient. Donc l'Empire, je ne vais pas rentrer, rassurez-vous, dans les détails de l'histoire, mais enfin, il y a eu un moment où l'Empire romain était coupé en deux. Il y avait l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Alors nous, qui sommes du côté occidental, nous appelons les chrétiens d'Orient, c'est donc de vous dire les chrétiens de l'Empire romain d'Orient. Et ceux qui ont été évangélisés par eux, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient ont aussi été évangélisateurs, notamment ils ont été les premiers évangélisateurs de l'Inde. Et donc il y a des chrétiens d'Orient en Inde. Voilà. Si on est latin quand on est au Vietnam, c'est pas tant qu'on parle latin, c'est qu'on a été évangélisé à partir de l'Église latine. L'Ukraine a été évangélisée à partir de Constantinople. Vous voyez, donc il y a des extensions, il y a des filiations qui se passent, mais donc on devrait dire les chrétiens de l'Empire romain d'Orient. Voilà. Mais ça n'englobe pas ceux d'Extrême-Orient qui ont été évangélisés à partir de l'Église latine et dont d'autres organismes s'occupent également.
Alors je repose la question à Vincent de la conscience que ces communautés peuvent avoir de leurs origines et de leur de l'origine qu'elles portent du christianisme.
Elles en ont tout à fait conscience. Ça, on peut vous le dire, il suffit de se promener en Orient, d'aller par exemple à Damas. Vous avez la porte de Saint-Paul, vous avez l'église de Béthanie où Saint-Paul a été baptisé. Il suffit d'aller en Palestine, au Liban même où le Christ est passé, je pense au sud du Liban, notamment une ville comme Saïda par exemple, où vous avez des grottes où la tradition raconte que la Vierge serait passée avec les apôtres. Donc oui, les chrétiens d'Orient ont conscience d'être les héritiers directs de ces premiers chrétiens. Ça, ils le savent. Et c'est aussi très douloureux pour eux, hein, il faut le dire aussi, parce que les tragédies, les drames qui se déroulent dans leur région dernièrement, l'exode aussi parfois, les départs, les migrations, c'est une déchirure parce que c'est un départ comme n'importe quelle personne qui part, mais c'est aussi une déchirure par rapport à ça, parce que ils laissent derrière eux leur village, leur famille, et puis aussi un petit peu de cet héritage.
Mmh. Et donc il y a un double arrachement finalement. Un double deuil à faire.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que les chrétiens d'Orient vivent comme leurs voisins et leurs frères musulmans, si vous voulez, les aléas de ces pays, les drames parfois, les déchirures, les guerres, mais aussi les moments de joie. Mais je dirais que dans certains pays, je pense notamment à la Syrie, la Palestine également, l'Irak, ils vivent une déchirure un peu existentielle, qui les distingue peut-être de leurs frères musulmans, c'est-à-dire que ces communautés sont parfois devenues des minorités et ils voient avec une grande blessure, ils vivent avec une grande douleur le fait de voir leur communauté s'amenuiser. Ce qui ne veut pas dire, ce qui justement à nos yeux hein, rend d'autant plus importante leur présence et la mission qui est la leur, notamment à travers les écoles, les œuvres de charité et leur mission.
Bonjour Marie.
Oui, bonjour, bonjour Melchior. Merci. Et merci à Mgr Goldmich et à Vincent qui est là. J'avais une question à poser qui a été répondue. Mais je voulais dire justement, quand j'ai entendu que l'émission était sur les chrétiens d'Orient, oui. Je me suis dit, c'est pas qu'il va être prétent, mais je voulais poser la question sur les panneaux. J'avais vu il y a des années de ça un ensemble de panneaux remarquables, mais très remarquables, mais j'avais su trop tard, donc j'avais pas pu en faire profiter beaucoup d'autres. Et Mgr Goldmich a répondu ce matin en disant que ce panneau sur les différentes branches des chrétiens, il était sur le site de l'œuvre d'Orient. Alors ça a été, j'ai été très contente de le savoir. Mais est-ce que les panneaux circulent encore ailleurs? Je ne sais pas. Et puis alors je voulais dire que, d'autre part, donc merci pour, et remarquable panneau, cet ensemble de panneaux.
C'est une frise, je crois
c'est
aussi.
C'est une frise, oui, par là. Oui, oui, mais c'est parce que je l'ai vu sous forme de panneau, si vous voulez, qui était déplié. Dans le fond d'une grande église. Et puis alors, ce que je voulais dire aussi à propos des chrétiens d'Orient, c'est que je me suis trouvée pendant des années dans une paroisse où il y avait des prêtres maronites, des jeunes prêtres maronites, étudiants, et donc à cette occasion, je crois que c'était leur évêque qui était, on dit pas leur évêque je crois, mais était venu célébrer une messe en rite maronite, et j'ai remarqué entre autres, l'extrême importance, l'extrême recueillement au moment de l'appel à l'Esprit-Saint, au moment de la consécration, qui passe beaucoup plus inaperçu dans notre rite catholique. Et c'est le moment où, en fait, dans une église, vous voyez ceux qui veulent s'agenouiller, c'est à ce moment-là que tout le monde s'agenouille. Et pour moi, je trouve que ça m'a enrichi ma participation à la messe catholique,
ce
moment intense. Et puis, je voulais dire aussi, je n'ai pas dit à Catherine, mais je peux le dire parce que j'y repense.
Oui, rapidement, Marie.
Pardon ?
Rapidement, si possible.
Oui, alors je voulais dire aussi que mon autre participation, c'est de réciter le Notre Père en araméen, parce qu'il y a 10 ans, j'ai entendu Mgr Barbarin qui revenait bouleversé de là-bas et qui nous a dit, je récite désormais il nous avait donné un témoignage très fort, et il a récité le Notre Père en araméen. J'ai essayé de l'apprendre depuis, et je le récite à l'heure du Notre Père. Donc c'est trois façons qu'on peut avoir aussi de participer au... Voilà.
Merci. Merci beaucoup Marie de vous avoir écouté avec patience. Merci pour votre témoignage. Je reviens Véronique sur cette frise. Je crois qu'elle vous a aussi marqué sur le site de l'œuvre d'Orient.
Oui, oui, elle est très bien faite. Elle est très pédagogique et ça permet de s'y retrouver. Mgr Goldmich, je crois que vous voulez réagir.
Oui, à propos de ces expositions, de fait, nous avons une trentaine d'expositions qui circulent en France. Alors, souvent dans des églises, mais ça peut être également dans des écoles, ça peut être même dans des mairies, dans des hôtels départementaux ou régionaux, là où nous sommes invités. Donc, il y a des lieux de laïcité qui ont accueilli ces... par exemple, actuellement, la mairie du 6e arrondissement, entre autres, à Paris. Voilà, il y a une trentaine d'expositions, soit généralistes, soit plus spécialement sur les Arméniens ou l'autre. Et c'est un travail d'information que nous menons. Ça peut s'accompagner de conférences, de témoignages, de liturgies en rite oriental, comme avec les Maronites. Donc oui, on dit un évêque chez les Orientaux. Je crois que là, il y a un travail important, où je suis conscient qu'il demeure beaucoup à faire, parce que je vois encore des Français qui n'y comprennent rien. Mais on se donne beaucoup de mal pour essayer de les faire connaître. Voilà.
Vincent Gelot, la ferveur de ces communautés que Marie soulignait, vous la constatez vous aussi au Liban, en Syrie, dans les pays que vous connaissez bien ?
Rapidement, Vincent, avant la pause.
Oui, écoutez, en fait, naturellement, quand une personne naît au Moyen-Orient, il se réfère souvent à sa religion et donc à son sanctuaire. Et pour les chrétiens, évidemment, l'église, c'est pas seulement un lieu de prière, mais c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu social. Il suffit de voir les scouts qui viennent, les couples, les enfants, etc. Donc il y a un rapport spirituel, évidemment, mais j'irais presque un rapport physique qui est extrêmement fort au Proche et Moyen-Orient.
Et on va continuer d'en parler dans un instant, la situation des chrétiens d'Orient, avec vos témoignages comme Catherine, comme Marie, au 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense, donc j'agis. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 9h30 dans Je pense donc j'agis. Dans quelle mesure vous sentez-vous proche et concerné par la situation des chrétiens d'Orient ? Venez témoigner au 04 72 38 20 23.
Je vous écris de l'Occident, de mon pays en liberté. Le vôtre est dévasté.
Mes yeux se tournent vers l'Orient, j'espère en vous, en vos combats, je ne vous oublie pas.
Je vous écris de l'Occident, loin de vos terres ensanglantées, d'Irak et de Syrie,
où le bonheur s'est évanoui, où la pitié n'existe pas.
Frères et mes sœurs, plongez dans la douleur.
Pour effacer l'indifférence,
il faudrait mille porte-voix.
Je ne vous oublie pas.
Je vous écris mon espérance avec des mots qui ont pleuré, prières entremêlées.
Malgré les armes et la distance, leur blessure entre nos pas, je ne vous oublie pas.
On pense à vous dans la tourmente, pour vous le dire, on vous le chante, les larmes aux yeux. On pense à vous, à vos souffrances, ce quotidien dans la violence au cœur du feu.
J'imagine la beauté des villes du écrit depuis mon cœur un chant qui fane le chagrin avant de refleurir.
Après la peine, après la peur, la paix rejaillira.
À nos frères d'Orient, c'était une chanson sortie il y a déjà quelques années qui a été enregistrée pour soutenir les victimes du terrorisme en Orient. C'était des artistes qui, chrétiens bien sûr, qui ont pu unir leur voix afin de témoigner de leur solidarité. Et puis tous les fonds à l'époque étaient reversés à l'œuvre d'Orient. Elle vous a marqué cette chanson, Monseigneur Pascal Gollnisch ?
Ah oui, complètement. C'était tout à fait un cadeau du Seigneur. De temps en temps, on en a au milieu de beaucoup de difficultés. D'abord parce que quand on est encore capable de chanter, il y a encore de l'espoir, il y a encore une joie, il y a encore une communion. C'est tout ça qu'apporte le chant. Et puis, c'était un très beau témoignage, un très beau... Et vous savez, ne les oubliez pas. Je prends conscience ces derniers mois à quel point l'oubli est une violence. Vous savez, quand vous haïssez quelqu'un, ce qui n'est pas bien, mais quand vous le haïssez, il existe encore. Quand vous l'oubliez, vous l'annihilez. Et c'est une violence terrible. Il y a des peuples oubliés. Je ne veux pas que les chrétiens d'Orient deviennent des gens oubliés. C'est pour ça, d'ailleurs, que dimanche, ma minute de pub, si je peux me permettre de rappeler qu'il y aura aussi des événements donc à Moulins, à Luçon, à Brest, à Grenoble, à Rouen, à Lille, à Toulouse et à Paris. Donc c'est quand même et dans beaucoup d'autres endroits. Je ne vais pas vous ennuyer à faire toute la liste. Donc ce sera quand même une belle mobilisation.
Je vous explique, il y a l'alarme incendie qui est en train de sonner dans toute la radio là à distance et il faut qu'on évacue. Je suis désolé, c'est relativement rare pour le signaler, mais il faut absolument qu'on évacue les studios. J'espère que tout va bien. C'est peut-être un exercice, mais en tout cas, on n'est pas au courant. Donc, on va évacuer Véronique. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver très rapidement pour continuer. Je pense donc j'agis en direct. Je suis désolé, c'est comme ça. Monseigneur Pascal Gollnisch, allez prendre un petit café. Pareil, Vincent Gelot. Et puis, promis, on se retrouve juste après. Je ne sais pas quand, mais on arrive. On est là.
ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma poule à zéro. Je lui ai dit, si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlo. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et le jukebox jouait.
Et le jukebox jouait.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. No milk today, my love has gone away. The boat has gone to love.
Nous sommes de retour en direct dans Je pense donc j'agis, après une petite interruption totalement inattendue. Ça n'était qu'un exercice, tout va bien à RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et je vous le rappelle, cette émission aujourd'hui est consacrée à la journée de prière et de communion avec les chrétiens d'Orient, une journée qui sera organisée dimanche prochain. Et nous avons la joie, le plaisir de retrouver Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, et Vincent Gelot en direct de Beyrouth. Vincent, vous êtes, je le rappelle, chargé de projet Liban et Syrie pour l'œuvre d'Orient. Alors, Monseigneur Gollnisch, on va reprendre le cours normal de cette émission. Vous nous parliez donc des différentes villes dans lesquelles vont avoir lieu les événements en lien avec cette journée du 5 mai. On vous a interrompu de manière un peu brutale. Alors, redites-nous en quelques mots.
D'abord, j'aurais eu beaucoup de peine que RCF à Lyon flambe, parce que nous vous aimons bien et nous avons l'habitude de travailler avec vous, comme avec Radio Notre-Dame, KTO et d'autres. Voilà. Alors, donc, ce dimanche 5 mai, il y aura des événements dans de nombreux diocèses, dans de nombreuses paroisses. Parfois, c'est une chose très simple, hein, c'est une intention de prière universelle. Vous voyez, la prière, ça n'a pas besoin d'être un spectacle grandiose. Hein. Retire-toi dans ta chambre et prie dans le secret, et ton Père qui le sait te le revaudra. Donc, c'est vraiment un réseau de prières, un tissu de prières. Mais je voudrais relever donc qu'il y aura parmi beaucoup d'autres des temps de prière à Moulins, à Luçon, à Brest, à Grenoble, à Rouen, à Lille, à Toulouse, et puis alors à Paris. C'est la messe annuelle de l'œuvre d'Orient qui aura lieu à Saint-Sulpice, à défaut d'être à Notre-Dame de Paris, en présence de l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, et de nombreux prêtres, évêques, fidèles, laïcs à Saint-Sulpice, à 15h30 dimanche. Et la messe sera célébrée par l'évêque de Nazareth, un évêque auxiliaire du patriarche latin. Et pour des raisons que chacun pourra comprendre, il nous a semblé important de demander à un évêque de Terre Sainte de venir présider cette messe. Et ce sera Monseigneur Rafik Nara, qui est d'ailleurs au départ un prêtre de Paris, qui est devenu prêtre en Terre Sainte, puis évêque. Et donc, on aura un message de Nazareth, un message de la Terre Sainte, et une occasion accrue de prier avec les chrétiens de Terre Sainte, durement éprouvés, comme vous le savez.
Alors justement, Vincent Gelot, ces chrétiens de Terre Sainte, durement éprouvés, ainsi que ceux de tout toute cette région du Proche-Orient, eh bien, on l'a dit, leurs racines sont là, et il se trouve que c'est une région du monde les plus tendues, les plus où il y a le plus de tensions, de conflits. Quels effets ces circonstances, ce contexte produit-il sur ces communautés chrétiennes ?
Écoutez, je tiens à noter que depuis longtemps, on entend dire parfois que le Moyen-Orient est en crise, comme si c'était
nouveau,
quelque chose de structurel, oui, ou quelque chose de structurel qui, avec lequel il devait vivre pour toute son existence. Ce que je peux vous dire, moi, depuis le terrain, c'est que ce qui se passe actuellement au Liban, en Syrie, par exemple, est absolument anormal. On est face à une crise sans précédent, une crise grave, qui affecte profondément les peuples de ces pays, et en particulier les communautés chrétiennes.
Pourquoi en particulier ?
Parce que ces communautés, d'abord, sont actives dans ces pays. Elles sont, je dirais, parfois en première ligne. Elles ont parfois été ciblées par les guerres. On parlait tout à l'heure de l'État islamique. En Irak, par exemple, elles ont été la cible de déplacements et des guerres aussi en Syrie. Et donc, elles vivent les drames ici en première ligne. Mais derrière ça, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, il y a cette crise existentielle. C'est-à-dire que il se passe dans la petite tête des petits Libanais, des petits Syriens, des petits Irakiens, la question suivante, est-ce que mon avenir est ici ou est-ce qu'il est ailleurs ? Voilà. Et ça, il se la pose de façon très, très importante. Et donc, c'est en cela que ce dont vous parliez tout à l'heure, les racines sont importantes. Ne jamais oublier d'où l'on vient et surtout de trouver un sens à sa présence ici. D'où le fait d'être missionnaire. Et c'est pour ça que cette présence chrétienne, je pense en particulier au Liban, où les chrétiens ne sont pas une minorité, où ils ont des institutions importantes, où ils ont des universités, où ils ont des richesses, où ils ont une diaspora, a un rôle important pour eux, mais aussi pour les populations autour, parce que ces communautés chrétiennes, de par leurs institutions, de par leur mission, jouent un rôle, je dirais même, de service public auprès de ces pays-là. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que cette présence n'est pas anodine, elle est non seulement ancienne, comme d'autres communautés, mais ils ont aussi cet apport dans ces pays du Moyen-Orient.
Mais alors, plane toujours cette éventualité de partir, de quitter. Et ça, c'est une des problématiques les plus aiguës de ces populations. On sait que la diaspora est très importante et, vous l'avez rappelé, c'est très douloureux.
Je crois qu'un départ est toujours une déchirure. Et donc, les chrétiens le vivent comme tel. Vous voyez, un pays comme la Syrie où, dans certaines villes, le nombre de chrétiens a diminué de façon très importante. Je pense à une ville comme la ville d'Alep. Quand on parle à des jeunes chrétiens, ils vous le disent parce qu'ils voient leurs amis partir, ils voient leur famille partir. Et ça, c'est très dur. Ils voient leurs églises aussi un peu se vider. Et donc c'est une des difficultés auxquelles on peut faire face.
Mais oui. Pourquoi est-ce qu'ils partent?
Ils partent, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qu'ils vivent est absolument inacceptable. Enfin, je rappelle que quand même ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, on parle de guerre, de déplacement. Un pays comme la Syrie, par exemple, ce sont des métropoles entières détruites. C'est 15 ans de guerre, ce sont des sanctions internationales, c'est 85-95% de taux de pauvreté, etc. Donc ce sont des conditions de vie au quotidien, sans électricité, avec des pénuries, gravissimes. Je veux dire qu'aucun être humain ne peut tolérer. Puis derrière ça, la communauté chrétienne est ouverte sur le monde. Il y a une diaspora qui existe, il y a des églises ailleurs, et donc ça crée un effet d'appel d'air aussi. Mais il faut le reconnaître.
Mais ce que vous décrivez là, Vincent, est-ce que ça n'est pas le sort de toute la population, chrétienne ou pas ?
Si, tout à fait. Le départ et l'émigration touchent tout le monde. Mais encore une fois, quand une communauté est petite, qu'elle est minoritaire, ça l'affecte profondément. Et ça touche son existence. Et ça, c'est une blessure que vivent les chrétiens, en particulier dans certains pays. Après, nous, l'œuvre d'Orient, notre mission n'est pas de leur dire « vous devez rester ou vous devez partir ». Nous, on les accompagne dans leur destin de vie, comme des amis, comme des compagnons de route. Et ce qu'on note quand même, c'est qu'on a la chance de côtoyer, moi je le dis souvent au quotidien, j'ai la chance de côtoyer des gens extraordinaires. On a des religieuses, des religieux, des laïcs qui font un travail exceptionnel dans des conditions absolument terribles. Pour leur communauté et pour leur pays. Et ça, je crois que cette mission qui est celle de l'Église et celle des chrétiens depuis 2000 ans se poursuit malgré la chute du nombre parfois, malgré les difficultés, malgré les amertumes. Et c'est pour ça, vous disiez tout à l'heure à Mgr Gollnisch, il ne faut pas les oublier, je le confirme ici, les chrétiens d'Orient ont besoin de ne pas être oubliés. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et je pense en particulier à des pays comme la Syrie qui sont un peu passés sous silence, dont on parle beaucoup moins. Et il faut lutter contre cet oubli. Les chrétiens d'Orient en ont tout à fait conscience et ils le vivent de façon intense.
Est-ce que vous avez le sentiment, Vincent Gelot, que ces chrétiens sont menacés parce qu'ils sont chrétiens ?
Je vous dirais non. En tout cas, ça dépend les pays. Là encore, c'est compliqué de donner des généralités. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par exemple au Liban où j'habite, un chrétien n'est pas menacé parce qu'il est chrétien. Un pays comme le Liban, c'est le pays du Moyen-Orient où c'est le seul pays du Moyen-Orient où le président de la République doit être un chrétien maronite. C'est un pays avec beaucoup de liberté. C'est un pays avec, en tout cas, plus que dans la région, plus que dans d'autres pays de la région. C'est un pays où les chrétiens représentent une force en réalité, pas une force militaire, pas une force de pouvoir, mais une force de par leurs institutions, de par leurs œuvres de charité. Je crois que ce dont les chrétiens ont besoin, c'est, vous l'avez dit, de ne pas être oubliés, mais c'est aussi d'une vision. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces guerres et ces crises qui frappent ce Moyen-Orient depuis 15 ans, les ont bousculés, les ont mis à terre. Et que leur aujourd'hui, je crois que les chrétiens d'Orient se cherchent une vision, se cherchent peut-être aussi des leaders, des gens qui puissent leur redonner une lumière, malheureusement dans des contextes très compliqués où la lumière parfois a tendance un peu à s'éteindre.
Monseigneur Gollnisch, vous voulez réagir, je crois.
Oui, en complément de ce que vient de dire Vincent, alors les chrétiens qui restent sont plus nombreux que les chrétiens qui partent. Hein, faut pas croire, notamment en Égypte. L'Égypte qui est aussi une terre sainte. Hein, Jésus est aussi allé en Égypte. Ils en sont très conscients. Hein, je veux dire, la Sainte Famille en Égypte, c'est très présent dans l'Église en Égypte. Donc, ils sont plus nombreux à rester qu'à partir. Je dirais même que si on regarde la région dans son ensemble, c'est-à-dire que si on englobe les pays du Golfe, ils sont plus nombreux à rentrer dans la région, les chrétiens, qu'à en sortir. Je rappelle que dans chaque pays du Golfe, à l'exception de l'Arabie Saoudite, et ces derniers temps, une église a été construite. Alors évidemment, ce sont des gens qui viennent pour travailler. Mais il y a des gens qui partent pour travailler, et il y a des gens qui viennent pour travailler. Alors souvent, les chrétiens sont ceux qui peuvent le plus facilement partir parce qu'ils connaissent les langues. Ils connaissent le français, ils connaissent l'anglais, donc ils obtiennent des visas plus facilement, faut bien le reconnaître. Et le désir de quitter cette région est hélas assez général. Et justement, les gens quittent la région parce que le pays va mal. Vous comprenez, on peut pas dire les chrétiens vont bien dans un pays qui va mal. Ni les chrétiens vont mal dans un pays qui va bien, même si parfois les chrétiens souffrent de discriminations particulières, même dans certains cas de persécution. Donc, si ces pays allaient mieux, les chrétiens iraient mieux, ils n'auraient pas le besoin de quitter leur pays. Parce qu'un chrétien d'Irak, c'est un Irakien, il aime l'Irak. Hein, il quitte pas l'Irak de gaieté de cœur, c'est un citoyen d'Irak. Et une même chose pour la Syrie, etc. Donc, si ces pays allaient mieux, les chrétiens ne partiraient pas, voire même reviendraient. Et il faut donc que ces pays évoluent. Ils vont pas rester sur le bord de la route du développement international. Il faut qu'ils aillent mieux sur le plan des libertés, sur le plan du bien vivre, sur le plan du développement économique, de la maîtrise de la démographie. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments pour que ces pays aillent mieux. Ils doivent aller mieux. Et de cela, les chrétiens d'Orient peuvent être des acteurs. Et à ce moment-là, ils en seront également des bénéficiaires. Je n'ai pas vu l'immense majorité des musulmans. Il faut bien comprendre cela. L'immense majorité des musulmans, d'abord, souhaitent que les chrétiens restent sur place à leur côté. Ils apprécient les chrétiens, puisque précisément, les chrétiens sont en mission auprès de l'ensemble de la population. Vous voyez, excusez-moi, j'ai une pensée quand même très particulière que je voudrais vous partager. Dans la bande de Gaza, il y a 3 écoles catholiques, tenues par des religieuses. 99% des élèves sont musulmans. Il y a une école église orthodoxe, une petite école orthodoxe et une église catholique. Donc vous voyez, c'est un vrai travail. Il y a une église catholique et 3 écoles catholiques à Gaza. C'est un vrai travail de service de la population parce que 99% des élèves sont musulmans. Parce que sinon, ils veulent que les chrétiens restent à côté d'eux. Donc, n'identifions pas les musulmans du Moyen-Orient aux petites franges des plus violents, des plus fondamentalistes, qui d'ailleurs ont aussi persécuté beaucoup d'autres musulmans. La plupart des musulmans veulent que leur pays avance. J'ai vu aucun musulman me dire le chef de mon État est un dictateur, le judiciaire est un féodal exécutif, l'imam vient chez moi voir comment je vis avec ma femme et mes enfants, il n'y a aucune liberté, c'est formidable, c'est génial, restons comme ça, vous les Européens, ne nous imposez pas votre modèle, patati patata. Non, le peuple musulman aspire à une évolution vers plus de liberté, vers plus de citoyenneté.
Comme les chrétiens.
Et cela rejoint le combat de beaucoup de chrétiens, notamment beaucoup de patriarches et d'évêques.
Elisa nous a rejoint depuis la Meuse au 04 72 38 20 23. Bonjour Elisa.
Oui, bonjour à tous. Donc l'œuvre d'Orient demande un cessez-le-feu à Gaza et effectivement documente sur le sort des chrétiens de Gaza. Par exemple, les paroissiens ont été barricadés à Pâques dans l'église de la Sainte Famille, manquant d'eau, de nourriture, de médicaments et sous les bombardements. On dit aussi que 2 chrétiennes ont été tuées à Gaza lors de l'attaque de la paroisse et il y a eu des tirs sur le couvent des sœurs de Mère Teresa. Enfin juste, il y a aussi l'appel du père Gabriel Romanelli, curé de Gaza. Donc c'est peu relayé cet appel, enfin apparemment, dans les médias en tout cas. Mmh.
Eh ben merci beaucoup Elisa d'être venue nous en parler. Loin d'une émission sur le conflit israélo-palestinien, Monseigneur Pascal Gollnisch, est-ce que c'est vrai que l'œuvre d'Orient a demandé un cessez-le-feu à Gaza ?
Ah oui, bien sûr. Nous avons, le 7 octobre, j'ai fait un communiqué condamnant cette attaque criminelle et terroriste avec cette prise d'otage qui est inacceptable. Le principe du prise d'otage, c'est inacceptable, quel que soit le responsable. Je veux dire, une personne humaine n'est pas un objet comme ça dont on peut s'emparer et faire après ça du chantage sur des otages. C'est inacceptable, nous l'avons condamné très fermement. Il nous semble que l'action de l'armée israélienne actuellement dans la bande de Gaza va bien au-delà des seuls problèmes de sécurité d'Israël et par conséquent, nous condamnons bien sûr ces excès, ces atteintes à la population, le blocage de l'aide humanitaire, de même que nous nous inquiétons de ce qui se passe en Cisjordanie, car c'est très grave. Il y a eu plus de 400 Palestiniens qui ont été tués par des colons et des colons qui n'ont pas le droit d'être en Cisjordanie. Voilà, c'est tout simple. Et vous savez, le problème est simple, il est très compliqué parce qu'on ne veut pas de solution. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour les Palestiniens, autrement dit, il y a l'État d'Israël qui a été décrété par une décision de l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, mais que fait-on avec les Palestiniens? Ils n'ont toujours pas d'État. Et on voudrait qu'ils vivent tranquillement, en paix, en nous faisant des grands sourires. Mais quelle solution les uns et les autres sont prêts à mettre sur la table pour les Palestiniens? Tant qu'on n'aura pas trouvé cela, qu'est-ce que vous voulez? Il y aura des conflits à répétition, on ne s'en sortira pas. Voilà. Que propose-t-on à un jeune Palestinien dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie qui a 25 ans et qui cherche où il peut mener sa vie et comment est-ce qu'il peut travailler, nourrir une famille et grandir sur cette terre qui est la leur? Alors, tant qu'on n'aura pas trouvé ça, il n'y aura jamais de solution. C'est aussi simple que cela.
Vincent Gelot, quels sont les types d'aide, de soutien que l'œuvre d'Orient peut apporter aux populations en difficulté? Et ces aides ne concernent-elles que les communautés chrétiennes?
Alors, si vous me permettez, je vais rebondir sur cette question de Gaza, parce que ce qui se passe actuellement a quand même des effets, et depuis longtemps,
oui,
sur les
sûr.
Pays voisins. Vous voyez, nous, on soutient un camp de Palestiniens chrétiens dans une ville qui s'appelle Dbaye, au nord de Beyrouth. Et ce sont des gens qui sont déplacés depuis 1948. Ils sont Palestiniens chrétiens, et ils ont actuellement de la famille dans la bande de Gaza. Voilà. Et actuellement, je tiens à dire aussi que le sud du Liban est aussi en proie à des bombardements, qu'on a actuellement des villages dont la proximité est bombardée, on a des gens déplacés, des personnes qui sont tuées, des écoles fermées, tout ça dans le contexte de la crise libanaise que l'on sait. Voilà, donc tout cela a quand même des effets anciens et récents sur les populations des pays voisins. Pour ce que vous me demandez, donc sur l'aide qui est apportée, écoutez, nous en fait, l'œuvre d'Orient, nous accompagnons les missions des communautés chrétiennes d'Orient. Et ces missions, elles sont diverses, elles sont variées, ça peut être dans le domaine de l'éducation, des écoles, des orphelinats, des œuvres de charité, ça peut être de l'aide humanitaire, ça peut être dans le domaine du patrimoine ou de la pastorale. Et ces missions, elles sont au service de la population. On a, vous parliez des écoles de Gaza tout à l'heure, on a des écoles à Tripoli par exemple, au nord du Liban. Le diocèse maronite, justement, a une quinzaine d'écoles où ce sont à grande majorité des élèves non chrétiens, des élèves musulmans, des élèves alaouites même. Au sud du Liban, ce sont des élèves chiites. Dans la montagne du Chouf, ce sont des élèves druzes et chrétiens. Et c'est pour ça que ces écoles et ces institutions chrétiennes, elles jouent un rôle évidemment important pour l'éducation, pour la scolarité, un rôle académique par exemple. Mais elles jouent aussi un rôle qui va bien au-delà, un rôle de rencontre, un rôle de communication, un rôle d'ouverture et donc un rôle de paix. Et quand... Dans un cas comme le Liban, les écoles chrétiennes représentent 200 000 élèves. On parle de 30% des écoles de ce pays. C'est considérable. Et c'est pour ça que les crises actuelles qui frappent ces pays et qui mettent en difficulté ces missions et cette existence met derrière en péril la paix et la coexistence dans cette région.
Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Vincent Gelot, je rappelle que vous êtes chargé de projet pour l'œuvre d'Orient au Liban et en Syrie. Monseigneur Pascal Golnisch, vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient et vous êtes également vicaire général de l'Ordinariat des catholiques orientaux en France. Merci d'avoir participé à cette émission un petit peu chahutée,
ah oui.
Mais on a quand même eu... Le plaisir de vous entendre et de pouvoir parler donc de cette journée qui aura lieu dimanche prochain, journée de prière pour les chrétiens. Orient.
Et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait ce matin en studio, Monseigneur Pascal Gonlich. Et désolé en effet pour cette alarme incendie. Alors on n'est pas content avec Véronique, ça nous a perturbé dans l'émission, surtout que c'est un exercice. Alors tant mieux, hein. Mais c'est vrai que pour vous toutes et tous, c'est parfois pas très agréable. On va continuer. Seconde partie de Je pense donc j'agis. On va toujours parler de la situation des chrétiens d'Orient. On va faire le focus notamment sur un festival qui va se dérouler début juillet. Appelez-nous au 04 72 38 20 23. À tout de suite.